le mois prochain, le 5 juin, par Jean-Pierre Luminet sur l'univers chiffonné. Voilà. Je vous dis ça maintenant parce que je sais qu'après, j'ai beaucoup de mal à dire deux, trois mots. Voilà, merci Anne, donc merci. Je te laisse la parole.
Donc, mon exposé va porter sur l'univers en rayons X. Alors, dans cet exposé, je vais essayer de vous montrer ce qu'on voit actuellement, ce que les derniers satellites, c'est-à-dire un satellite européen et un satellite américain, observent en ce moment. Donc, c'est des satellites qui ont été envoyés il y a un an et demi et deux ans, et nous travaillons sur les premières données qui arrivent, enfin, maintenant, elles ne sont plus premières, sur les quelques récentes données qui arrivent. Alors, le plan de mon exposé est en trois parties. Dans la première partie, je ferai une introduction des difficultés de l'observation des photons X, hein, et qui explique que ce soit une science relativement récente. Dans la seconde partie, je montrerai un peu les différentes étapes de la vie d'une étoile, d'une étoile type le Soleil jusqu'aux explosions d'étoiles, hein, donc jusqu'à leur mort. Et dans la troisième partie, je montrerai des systèmes gravitationnels plus importants, c'est-à-dire une galaxie avec beaucoup d'étoiles, donc de l'échelle d'une galaxie à des groupes de galaxies, aux amas de galaxies, donc les structures les plus grandes de l'univers. Donc, le spectre électromagnétique qu'on pourrait observer va donc du radio, qui a les plus grandes longueurs d'onde, ici, du radio à l'infrarouge, le domaine visible que vous connaissez bien, ultraviolet, rayons X, rayons gamma. Donc les rayons X, rayons gamma, les plus énergétiques correspondent aux plus petites longueurs d'onde, hein, de l'ordre de l'angström en rayons X, quelques angströms, et correspondent à des énergies typiques de 1000 électronvolts, un keV, ce que je dirais dans la suite de l'exposé, un keV pour 1 kilo électronvolt, 1000 électronvolts, qui est l'unité qu'on utilise beaucoup. Donc, ce qu'on va chercher à regarder, là, c'est cet univers qu'on devrait observer dans toutes les longueurs d'onde, de façon à mieux le comprendre et à en regarder les différents processus et les différents aspects. Là, on va s'intéresser à ce domaine des rayons X. Alors, la première difficulté de l'observation en rayons X, c'est l'atmosphère terrestre. Voici la courbe d'absorption de l'atmosphère. Alors, ce qu'on voit, c'est pour une source du ciel, la moitié des photons qui arrivent, cette courbe représente la moitié des photons qui arrivent d'une source placée en dehors de l'atmosphère terrestre, en fonction de la longueur d'onde, hein, ou de l'énergie ici. Donc, vous voyez les différentes gammes du domaine radio, ici, donc c'est-à-dire les longueurs d'onde les plus grandes, de l'ordre du mètre, du centimètre, au mètre, kilomètre. L'infrarouge, l'optique, que cette petite bande, ici, visible. Hein, donc c'est-à-dire que l'atmosphère, on voit qu'on peut avoir l'ensemble de l'émission émise au sol. Il n'y a pas d'absorption de l'atmosphère, et c'est pour ça qu'on voit en optique, le ciel. Et puis, on a des fenêtres atmosphériques dans l'infrarouge, le domaine UV, X, gamma. Et là, on voit que dans ces domaines-là, ultraviolet X, donc assez énergétique, il faut être à une altitude au-delà de la surface terrestre très importante. Ici, vous avez l'altitude. Donc là, on voit par exemple l'Everest, c'est en kilomètres, de 0 km à 150 km. Donc, on voit que dans le domaine optique, au sol, on détecte, hein, pour arriver à détecter la moitié des photons qui sont émis, il faut être à 150 km typiquement au-dessus de la surface de la Terre. Donc ça veut dire qu'il était impossible du sol d'avoir aucune détection jusqu'à très récemment, parce qu'il fallait des engins spatiaux qui soient suffisamment puissants, des fusées pour amener des détecteurs à ces altitudes, 150 km. Et donc ça, ça a été la première difficulté de l'astronomie X. Alors, ce qu'on appelle l'astronomie X classiquement, c'est la gamme d'énergie, 0,1 keV, 20 keV, donc 0,1 kilo électronvolt, 100 électronvolts à 20 000 électronvolts. Donc dans cette gamme d'énergie, comme je viens de vous le montrer, l'atmosphère terrestre est opaque aux rayons X. Donc on ne traverse pas, en fait, il faudrait être à plus de 99% de l'atmosphère pour pouvoir observer. Donc ça a poussé à l'attente de développement de fusées ou de satellites pour pouvoir observer cet univers dont on ne connaissait absolument rien il y a 30 ans. Et ce qui explique que ce soit une science relativement jeune. Donc, pourquoi les photons X ne traversent pas l'atmosphère? En fait, il y a un effet d'absorption photoélectrique qui sert à exciter les atomes d'oxygène et d'hydrogène de l'atmosphère et à ioniser, et donc ils ne traversent pas l'atmosphère. Ils sont absorbés. Alors, les prémices de l'astronomie X a donc débuté avec des engins spatiaux, enfin des fusées qui soient suffisamment puissantes pour atteindre cette altitude au-dessus de la surface terrestre. Les premières fusées, elles datent de l'après-guerre, suite au développement fait pour la guerre, donc ont été faites par le laboratoire de recherche navale aux États-Unis. Et les premières fusées ont détecté l'émission X du Soleil. Donc ça, avant, on ne savait absolument rien de l'émission probable de l'univers en rayons X. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'idée, il n'y avait pas de théorie qui disait on va observer et voir une émission très intense ou pas. Personne n'avait vraiment d'idée sur ce domaine. C'était vraiment les premières observations. Donc l'émission X du Soleil a été quelque chose de fabuleux. Et en même temps, ça a amené à une grande déception, c'est-à-dire que les gens ont fait le calcul de regarder la brillance X du Soleil et de mettre ce flux à une distance, la distance par exemple de la première étoile qui est la plus proche de nous. Et dans ce cas-là, en fait, ils se sont rendus compte que la sensibilité instrumentale était beaucoup trop faible et qu'on ne pouvait pas détecter. Donc on a eu vraiment l'impression qu'il n'y avait plus rien à faire en astronomie X, que ça s'arrêtait au Soleil, et puis que les détecteurs qui étaient développés étaient vraiment, mais très nettement, infiniment faibles pour arriver à détecter une émission autre dans l'univers. En fait, il y a eu quand même des équipes qui ont été extrêmement motivées et qui se sont dit que ce n'était pas possible, qu'il fallait absolument investir l'émission de cet univers et qu'il fallait continuer la recherche, améliorer les détecteurs, améliorer les fusées et arriver à vraiment observer sur un long temps dans des bonnes conditions cet univers. Et le justificatif de ça a été en fait de rechercher l'émission de la Lune. Parce que dans ce cas-là, la difficulté, c'était un développement instrumental, il fallait beaucoup d'argent. Et pour avoir cet argent, en fait, ils se sont servis des programmes américains pour aller sur la Lune, donc dans cette période-là, et qui ont donné beaucoup de budget pour essayer de regarder l'émission de la Lune, qui permettait d'avoir des renseignements qui aurait permis d'avoir des renseignements sur la surface de la Lune. Donc dans la prévision, effectivement, d'aller sur la Lune. Donc ça a développé beaucoup de budget, et des équipes ont pu travailler pendant longtemps à développer ces laboratoires sur cet axe. Et en fait, donc les premières fusées qui ont réussi, avec des détecteurs qui ont tenu au lancement, ce qui n'était pas facile dans les premiers temps, datent de 1960, donc Giacconi et Rossi. Et la première source extrasolaire a donc été observée en 62, elle s'appelle SCO-X1, c'était dans la première source dans la constellation du Scorpion, qui a donc relancé toute la problématique de l'astronomie X et la volonté de rechercher quelles étaient les sources possibles d'émissions. Donc entre 62 et 70, il y a eu énormément de fusées et de vols-ballons, un petit peu plus haute énergie, parce qu'à plus haute énergie, on pouvait avoir des ballons qui étaient à plus faible altitude, comme vous l'avez vu sur l'absorption de l'atmosphère. Et puis ça veut dire que c'était donc possible de détecter d'autres sources qui soient à des distances stellaires, tout au moins. Alors ce que ça montrait aussi, c'est que comme on s'attendait à une très faible luminosité en prenant le flux du Soleil, le flux X du Soleil, ça veut dire que ces sources était vraiment extrêmement énergétique, avec des puissances phénoménales. Et là, la question était de savoir d'où venait toute cette énergie. Comment se faisait-il qu'il y avait des sources qui émettaient tant de rayons X? Et pour ça, il n'y avait pas d'idée préétablie. Donc le début de l'astronomie X, ça a été vraiment d'essayer de comprendre la nature de ces sources, quels étaient les mécanismes d'émission, quelles étaient les sources d'énergie, parce que là, on n'en avait vraiment pas d'idée. Et pour ça, il fallait arriver à faire une identification optique et radio, c'est-à-dire à savoir ces émissions X venaient de quels objets, de quelle direction du ciel. Et pour ça, ça impose d'avoir une bonne résolution spatiale, c'est-à-dire d'arriver à voir, avoir des images bien définies, avec une bonne position. Et le début de l'astronomie X n'était pas du tout le cas. On intégrait sur des degrés carrés. Il n'y avait vraiment qu'une indication de la position de la source dans la galaxie, mais pas quelque chose de plus précis. Donc ça montrait la nécessité de développer des bons imageurs. Il fallait positionner la source et regarder l'identification, la contrepartie optique et radio, de façon à savoir de quel type de source il s'agissait. Également d'avoir le spectre X, c'est-à-dire d'avoir la distribution de photons en fonction de l'énergie dans le domaine X, qui permet d'établir quels sont les mécanismes d'émission et donc quels sont les processus associés et donc quelle est la physique sous-jacente à ces objets. Également les courbes de lumière, c'est-à-dire on voulait voir si les sources étaient variables, pouvoir suivre des sources variables et collecter un plus grand nombre de sources de façon à pouvoir faire de la statistique sur ces objets qui émettaient en X et les caractériser. Donc en fait, ça a été possible en 70 par le premier balayage du ciel qui a été fait par un satellite américain, Uhuru, qui a donc un balayage du ciel, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les fusées et satellites regardaient une région précise du ciel qui était assez grande, donc mal définie, mais c'était pas un balayage complet du ciel. Et c'est en faisant ce balayage qu'on peut arriver à savoir quel type de source, répartition des sources, caractérisation de ces sources et à quoi elles correspondent. Donc, ce qui a été révolutionnaire à l'époque, ça a été les observations de Centaurus X3, donc une source extrêmement brillante dans le Centaure, pour lequel on a vu une variation du flux, première indication, une variation de la période de variation de ce flux, et une extinction cyclique de durée de 11 heures. Ça, ces trois éléments permettent de dire que c'est un système binaire à éclipse avec une étoile à neutrons en rotation. Donc l'étoile à neutrons en rotation donne la période de 4,84 secondes. Le fait que ce soit un système binaire avec une variation fait une variation de la période due à l'effet Doppler, le déplacement de la fréquence. Et puis l'extinction cyclique dit que le système binaire est à éclipse, c'est-à-dire que la variation est dans le plan de notre ligne de visée et que la source disparaît pendant 11 heures. Donc ça, c'était le début de l'astronomie X, parce qu'on a commencé à quantifier des choses, mesurer, diagnostiquer, alors qu'avant, c'était vraiment les premiers débuts, les premières indications. Alors, la deuxième difficulté de l'astronomie X, c'est l'imagerie. Parce que ces photons qui sont extrêmement énergétiques ne se réfléchissent pas facilement, ils sont très vite absorbés. Dans notre atmosphère, ils sont absorbés en 10 cm pour 1000 électronvolts typiquement. Donc en fait, on n'arrive pas à les faire, ils se réfléchissent pas, très difficilement. Donc on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes qu'en optique. Et la seule façon d'arriver à les défléchir, et donc à les focaliser pour faire une image, c'est d'avoir des miroirs à incidence rasante. C'est-à-dire qu'au lieu de traverser comme ça et d'avoir la structure cristalline, où on a une chance sur deux, quasiment de passer entre les atomes du matériel, on se met à incidence rasante, et là, on a une série d'atomes, et là, on a une probabilité de réflexion qui est nettement plus élevée que comme ça. Donc, c'est pour ça que les miroirs X ont incidence rasante. Donc, au lieu d'être des plans comme ça, ça va être quelque chose qui est dans la ligne de visée. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, on voit les surfaces, une partie avec une surface parabolique du miroir et une partie avec une surface hyperbolique. En fait, les rayons X arrivent par ici, sont réfléchis une première fois, puis une deuxième, et arrivent à focaliser. On arrive comme ça à les focaliser sur une incidence rasante. Le problème de ça, c'est qu'on n'a pas une grande sensibilité, parce que ça veut dire qu'il faut mettre énormément de couches de miroirs comme ça pour arriver à être sensible. Donc ça va être une des difficultés encore de l'astronomie X, qui est la sensibilité. Donc ce qu'on cherche à avoir, c'est la détection des photons, c'est-à-dire on veut arriver à mesurer chaque photon quand il arrive. Donc un photon arrive sur le détecteur, On veut connaître sa position, son énergie et le temps à laquelle il arrive. On en a besoin pour les courbes de lumière, pour le spectre et pour l'image. Et ce qu'on voudrait, idéalement, c'est avoir tous ces renseignements sur le même instrument. C'est-à-dire, pas d'un côté un imageur qui sache très bien faire une des fonctions, mais pas l'autre. On a besoin d'avoir cette information combinée. Donc maintenant, on en est à cette étape-là. Là, en 2000, avec le lancement, en fait, en 99, du satellite américain Chandra, d'observation en rayons X, et du satellite européen XMM, qui a été lancé en décembre 99, on en est à des instruments qui permettent de fournir, avec une résolution spatiale, c'est-à-dire une définition d'image tout à fait raisonnable, c'est-à-dire de l'ordre de 4 secondes pour XMM et une demi-seconde pour Chandra, et qui permettent de fournir l'énergie, c'est-à-dire qu'on a une bonne résolution d'énergie, on arrive à résoudre les rays, à pouvoir mesurer les éléments lourds, voire pouvoir déterminer les processus d'émission. Et le temps d'arriver de façon à suivre les variations, par exemple millisecondes maintenant de pulsar. Donc voici un exemple de miroir. Donc ce sont les miroirs XMM. Donc on voit 58 miroirs, couches de miroirs ici, concentriques, co-alignées. Et c'est ça qui fait la sensibilité d'XMM. Donc XMM, par rapport à Chandra, un instrument qui est extrêmement sensible, qui est 5 fois plus sensible, et c'est dû au nombre de miroirs concentriques. Alors, la difficulté, c'est quand on a 58 couches, c'est plus difficile de les aligner correctement. Et ça, l'alignement, ça joue sur la résolution spatiale, donc la qualité de l'image que vous allez obtenir. Donc, c'est un compromis entre le nombre de photons que vous avez pour pouvoir avoir suffisamment de photons pour construire une image, et également avec cette résolution spatiale de façon à bien distinguer un objet d'un autre quand ils sont prêts. Donc, sur Chandra, c'est le même principe, mais il y a 8 couches, simplement, 8 miroirs, donc il fait que la sensibilité est plus faible. Mais conséquence, l'alignement est beaucoup plus facile, et donc ils ont une bonne. Enfin, ça tient à l'alignement des miroirs et également à la qualité individuelle des miroirs. Et donc, la résolution spatiale est bien meilleure. Alors maintenant, un schéma XMM pour vous montrer un petit peu la taille de ces instruments. Alors là, vous avez les télescopes. En fait, sur XMM, il y a 3 télescopes, donc 3 séries de 58 miroirs, comme vous venez de voir, qui sont ici. Il y a une longueur focale d'à peu près 7 mètres. Et puis là, au plan focal, vous avez les instruments. Donc il y a plusieurs types d'instruments qui sont essentiellement des CCD, des dispositifs à transfert de charge, et qui permettent donc d'avoir à la fois cette information d'image et de spectre, ainsi que de variations temporelles. Donc ce qu'on voit ici, c'est des radiateurs passifs pour évacuer la chaleur. Et puis là, vous voyez aussi en bleu un autre télescope qui est un petit télescope optique qui fonctionne en même temps sur XMM de façon à voir les variations optiques ou dans certains cas les champs en optique. Donc là, c'est une image d'XMM. Donc sur Chandra, le principe est le même. J'ai choisi d'illustrer sur XMM, mais les détecteurs sont essentiellement les mêmes, et c'est surtout la différence, c'est surtout sur les miroirs. Donc là, c'était XMM à Kourou. Alors pourquoi sont-ils habillés comme ça? C'est parce que pour envoyer des instruments dans l'espace, il faut des conditions très précises de propreté, de qualité de l'air ambiant, c'est-à-dire qu'il faut un taux de poussière extrêmement faible, un taux de particules extrêmement faible. Il faut que ce soit très très propre, très peu d'humidité, parce qu'autrement ça peut entraîner des problèmes, des chauffages en vol de l'électronique. Donc, ces satellites sont envoyés assez loin, sur des orbites de ce type. Alors, on a la Terre, la représentation du satellite. En fait, sur XMM, c'est une orbite de 48 heures, donc il tourne autour de la Terre en 48 heures. Le périgée est à 7000 km et l'apogée est à 114 000 km. Alors l'intérêt, c'est qu'on peut observer pendant tout ce temps-là la même source. Hein. Donc on peut avoir des temps d'observation extrêmement longs, ce qui est nécessaire. Hein. Donc en optique, on peut observer en, je sais pas, par exemple, en 20 minutes, on peut avoir une très belle image d'émission optique d'étoiles qui ont explosé. Sur les satellitiques, ça se compte en milliers de secondes, et c'est plutôt plusieurs heures d'observation minimum pour arriver à observer. Le minimum, c'est vraiment plusieurs heures d'observation. C'est les temps longs. Donc pour ça, il faut une orbite assez stable. Et également, ces orbites permettent d'observer longtemps. Et dans la partie près de la Terre, hein, on ne peut pas observer à cause des ceintures de radiation autour de la Terre qui sont liées à la magnétosphère terrestre, qui font qu'il y a un taux de particules extrêmement énergétique qui détériore le matériel. Donc on n'observe pas dans ces conditions, tout est fermé, les instruments sont protégés. Voilà. Donc maintenant, si on regarde quel type de source d'émission, donc avant ces satellites, quel était à peu près le bilan? Donc le bilan, il avait été fait par un satellite allemand, Rosat, qui avait fait un balayage du ciel. Donc ça, c'était dans les années 90, enfin il y a 5 ans, et qui avait compté donc plus de 100 000 sources X dans le ciel, avec en proportion des étoiles, 35%, des systèmes d'étoiles binaires, donc des étoiles binaires avec des transferts de masse, des restes de supernova, c'est-à-dire l'explosion d'étoiles, ce qui reste de l'explosion d'étoiles, des noyaux actifs de galaxies et des amas de galaxies. Alors maintenant, dans cette deuxième partie, je vais vous montrer donc un petit peu, rappeler les conditions de vie et de mort des étoiles, et regarder, illustrer donc, quelles sont les émissions X qui vont être associées dans ces diverses étapes. Donc je vais sélectionner que quelques passages parce que je ne peux pas, bien sûr, tout montrer. Donc là, on voit deux galaxies. Bon, dans une galaxie, il y a beaucoup d'étoiles, il y a une centaine de milliards d'étoiles. Ce qu'on voit, c'est les structures en densité, ces bras spiraux dans lesquels sont la plupart des nuages interstellaires, du gaz interstellaire, hein, et des étoiles massives. C'est là où se forment les étoiles. Donc la première phase est une phase qui est due, la phase de naissance des étoiles est due à l'effondrement gravitationnel de ces nuages, donc typiquement dans ces bras ou dans la région centrale de la galaxie, où les étoiles se forment. Donc la création, la gravité de ces nuages va faire qu'on va avoir un effondrement jusqu'au point où la fusion de l'hydrogène commence. Donc la vie de l'étoile commence à ce moment, au moment de la fusion de l'hydrogène. Par la suite, cette vie va être en fait une lutte permanente contre la gravité. Et l'élément de lutte contre cette gravité, ça va être la fusion des éléments. Donc pour que l'étoile soit en équilibre, ce qui va expliquer son évolution, ça va tenir à cet équilibre entre la gravité et la fusion des éléments. La fusion des éléments va chauffer le gaz, et cette pression thermique va lutter contre la gravité. Donc, dans une première phase, on peut regarder le Soleil, qui est une étoile ordinaire, de petite masse, qui est en train de brûler son hydrogène au cœur pour lutter contre la gravité. Donc ça, c'est l'émission, c'est le Soleil en rayons X, observé par le satellite japonais Yoko, ce qu'on appelle des rayons X mou ou soft, c'est-à-dire dans la gamme autour de 1000 électronvolts, plutôt que 10 000. Donc ça correspond à des températures de millions de degrés. Ce qu'on voit, c'est que l'émission n'est pas du tout homogène, hein, on ne voit pas du tout la surface comme on voit en optique du Soleil. Ce qu'on voit, c'est des régions très structurées avec des boucles, hein, avec des éruptions sur le côté, des régions où on ne voit rien du tout, très sombres. Donc les régions qui sont sombres correspondent aux régions où il y a peu d'émissions X, voire pas d'émissions X. Et ces régions-là, en fait, sont des régions les plus brillantes en rayons X. Elles coïncident, en fait, elles correspondent, sont liées à l'activité magnétique du Soleil. Et ce gaz qui émet en rayons X, qui est donc un gaz extrêmement chaud à des millions de degrés, provient en fait du chauffage par ces tubes de flux magnétiques qu'on voit ici, qui font ces boucles. et des éruptions de part et d'autre. Donc l'émission X du Soleil provient de, est due à l'activité magnétique du Soleil. Et ça, on peut voir, donc, ce qui émet en rayons X, c'est la couronne, c'est tout l'extérieur. Hein. La surface du Soleil, vous savez que c'est à une température beaucoup plus basse, de 6000 degrés, hein, qu'on voit en optique. En fait, cette couronne, on pourrait la voir avec... on la voit lors d'éclipses totales, par exemple. Donc, ceux qui ont pu voir l'éclipse totale ont vu toute la couronne. C'est cette couronne qui émet en rayons X. Donc, avec une température extrêmement élevée vers l'extérieur. Donc, au début, personne ne s'imaginait que, là, il y avait, que la température de la couronne était beaucoup plus élevée que la température de la surface. En fait, ça impose qu'il y ait une source permanente d'énergie qui chauffe cette couronne. Et ce chauffage, on pense qu'il est donc dû à cette activité magnétique. Alors, le Soleil, c'est une étoile ordinaire. Hein, donc, l'émission X, était, on a vu, n'était pas très forte, en fait. Elle était, d'accord, c'est la source la plus brillante parce que c'est la plus près de nous, mais intrinsèquement, ce n'est pas une source d'émission X forte, hein, parce qu'en fait, son activité magnétique n'est pas spécialement forte. Alors, si on regarde beaucoup plus loin, par exemple, une étoile à 100 années-lumière, HR1099, donc là, 100 années-lumière, on voit une émission extrêmement brillante, qui est donc cette source. Alors ça, c'est une image. Donc là, vous voyez avec XMM la résolution spatiale de l'instrument. Et les structures là, comme ça, sont liées au support des miroirs concentriques que vous avez vus dans l'image qui montrait les miroirs. Il y avait des supports pour les tenir, hein, et c'est ça qu'on voit. Autrement, c'est une source ponctuelle. Normalement, ça devrait être un point, s'il n'y avait pas de réponse instrumentale. Et ici, vous voyez le spectre. Alors là, c'est un spectre extrêmement beau avec énormément de raies d'éléments très ionisés, du magnésium. Alors là, vous voyez du magnésium sur lequel il reste un électron, deux électrons, c'est-à-dire initialement, il en a 12. Ça a été suffisamment ionisé qu'il en a perdu 11, il n'en reste plus qu'un. Et là, on a dû faire 22, au lieu d'avoir 26 électrons, il n'en reste plus que 4, et etc. Donc tous ces éléments sont des éléments qui ont été... très fortement ionisé, un plasma vraiment très fortement ionisé à des millions de degrés, et qui correspond à l'émission qu'on a vue de ces boucles de plasma qui ont été chauffées. Également, elles peuvent correspondre aux périodes d'éruption, où là, on voit des raies qui sont produites plus intensément pendant ces éruptions. Donc, cette étoile, qu'a-t-elle de particulier ? En fait, elle est dans un système binaire très serré, il n'y a pas de transfert de masse, simplement le fait qu'elle soit dans un système binaire très serré accroît l'activité magnétique, fait qu'il y a des boucles beaucoup plus fortes avec des énergies beaucoup plus fortes qui sont impliquées, qui font que l'émission X est bien plus importante. Alors maintenant, si je peux illustrer le cycle de vie d'une étoile massive. Donc, on part du début, alors par effondrement gravitationnel d'un nuage, on arrive à former, à enclencher en élevant la pression et la température à l'intérieur. On arrive à des températures suffisamment importantes pour déclencher la fusion de l'hydrogène, qui après est le combustible qui permet donc à l'étoile d'avoir une période stable. Puis peu progressivement, elle va brûler son hydrogène, tout son hydrogène, puis l'hélium, etc., etc. Donc ça, c'est le cas des étoiles massives. Les étoiles massives ont un plus grand potentiel, puisqu'elles sont plus massives, l'effondrement gravitationnel va être plus fort. Elles vont pouvoir, à terme, atteindre des températures beaucoup plus élevées, donc jusqu'à l'effusion des éléments... beaucoup plus lourds. Donc, elles arrivent à une phase de supergéante rouge avant, pour la plupart, d'exploser en supernova. De cette explosion peut rester soit un trou noir, soit une étoile à neutrons. Donc, la partie centrale de l'étoile deviendra une de ces objets compacts, et toute la partie extérieure va être éjectée dans le milieu interstellaire et va être recyclée, c'est-à-dire cette génération de milieux interstellaires enrichis va permettre une nouvelle génération d'étoiles et le cycle va comme ça. Et va fournir au milieu interstellaire, va chauffer le milieu interstellaire et fournir des éléments lourds. Et ces éléments lourds sont cruciaux puisqu'ils ils permettent le fait que nous existions et la production d'éléments de fer sur Terre. Donc, la fusion nucléaire va aller jusqu'au fer. Et lors de l'explosion, on va arriver à produire des éléments beaucoup plus lourds et radioactifs. Tout ça, ça va enrichir le milieu interstellaire, donc le milieu qu'il y a entre les étoiles dans la galaxie, en éléments lourds. Et on peut distinguer deux formes d'explosion, donc deux formes de fin catastrophique de ces étoiles, parce que les étoiles les moins massives finissent en naine blanche, mais les étoiles plus massives vont donc, comme je vous l'ai montré, exploser, et les étoiles de faible masse naine blanche en système binaire vont pouvoir dépasser leur masse et arriver également à une explosion, mais là, toute la matière va être éjectée. Donc, en rayons X, c'est ce qu'on voit assez facilement. Donc là, encore un schéma avec une géante rouge d'explosion, on voit le résidu, donc trou noir ou étoile à neutrons, et la matière éjectée. Donc ça, c'est un schéma, on voit étoile à neutrons, matière éjectée. Et ça, c'est une observation tenue par le satellite américain Chandra. Donc cette observation, ce qui est intéressant, c'est que l'explosion de l'étoile avait été observée par les Chinois en l'an 386. Donc on a des mesures de cette explosion, l'endroit où elle a explosé. Et là, on voit donc un résidu compact, une étoile à neutrons, avec une structure autour qui est liée à l'activité de cette étoile à neutrons, de ce pulsar, et puis la matière éjectée autour qui est chauffée à des millions de degrés et qui émet en rayons X. Alors, la mort d'une étoile, comment ça se produit? On appelle ça supernovae. Alors, novae, normalement, le nom disait plutôt l'inverse, parce que le nom supernovae disait plutôt que c'était des étoiles qui apparaissaient brusquement dans le ciel avec des brillances gigantesques. Bon, à l'époque, des observations historiques, faites par les Chinois ou les Européens, et qui libèrent une énergie considérable, de l'ordre de 10 puissance 5 erg. En fait, il n'y a qu'une toute petite fraction qui est sous forme de lumière visible. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qui a été observé historiquement. Mais cette fraction-là est vraiment très, très faible. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de SN87A. Donc, c'est l'unique explosion qu'on a pu voir à l'œil nu et où on voit donc avant, dans les nuages de Magellan, avant, donc cette petite étoile qui est là. Et après l'explosion, une brillance considérable qui égalait la brillance des nuages de Magellan. Là, donc, dans le grand nuage de Magellan, ici représenté. Donc, le grand nuage de Magellan, c'est une petite galaxie irrégulière qui est satellite de la nôtre, la galaxie la plus proche. Donc, ça, c'est le début de l'histoire. Ensuite, cette onde de choc de l'explosion va chauffer le milieu qui est autour. Donc, c'est une onde de choc qui va chauffer un énorme volume de gaz, par exemple. C'est ce qu'on voit ici pour ce reste de supernova de Kepler qui a explosé en 1604 et qui a été observé par l'astronome Johannes Kepler. Et là, c'est une observation avec Chandra. Donc, on voit toute cette émission X extrêmement forte de la matière. C'est la matière qui a été synthétisée lors de l'explosion, enfin, lors de l'évolution de l'étoile, la fin de l'étoile et son explosion, et qui va être disséminée dans le milieu interstellaire. Donc là, on voit notre galaxie, la Voie lactée, par la tranche. Ça, c'est pour illustrer qu'on a des régions très absorbées. Donc, toute supernova qui exploserait assez loin de nous, dans le plan de la galaxie, aurait quand même des difficultés à être vue à cause de l'absorption. Et ça, c'est important parce que normalement, dans notre galaxie, on s'attend à 3 explosions, donc 3 supernovas par siècle. Et donc, la dernière qu'on a observée dans notre galaxie, parce que SN87A, ce n'était pas notre galaxie, date de 1604. C'est la supernova donc observée par Kepler. En 400 ans, on n'en a pas revu depuis aucune supernova. Alors pourquoi c'est quasiment certain qu'elles ont explosé à ce rythme-là, approximativement. Par contre, on ne les voit pas parce qu'elles doivent être dans des régions très absorbées, plus loin de l'autre côté du plan galactique. Et les observations à haute énergie donc, devraient permettre de voir, parce qu'à très haute énergie, l'absorption va être moins forte et on devrait pouvoir voir. Donc, par exemple, c'est un des objectifs de à plus haute énergie X dur et rayon gamma du prochain satellite intégral d'observation, satellite européen d'observation gamma, rayon gamma. Donc maintenant, ces restes de supernova, pourquoi ça chauffe? En fait, la matière qui est éjectée, elle est éjectée à des vitesses gigantesques. Elle a quelques 10 000, 20 000 km par seconde. Et donc, c'est une collision extrêmement forte entre la matière de l'étoile qui est éjectée et le milieu qui est autour, qui est ce milieu interstellaire entre les étoiles. Donc ça, cette interaction-là amène à des chocs très forts, hein, qui élèvent la température de façon considérable. Donc là, on voit un reste de supernova dans le petit nuage de Magellan, qui a à peu près 1000 ans. On voit l'onde de choc ici, l'onde de choc principale qui est de l'explosion, le milieu interstellaire, hein, qui est choqué. Et puis, chose plus compliquée également, cette interaction dans la phase initiale amène en fait à deux chocs. Un choc vers l'extérieur, celui de l'explosion. En fait, la matière va finir par être décélérée, et à cette décélération est associée à un choc. Et en fait, en résultat, on a une bande d'émission, enfin, une sphère d'émission de gaz chaud ici, qui est encadrée par ces deux chocs, un qui va vers l'intérieur, un qui va vers l'extérieur. Donc ça, c'est un schéma de cette évolution qu'on voit extrêmement bien en rayons X. Et entre les deux, on a une interface qui est entre la matière qui est éjectée et le milieu qui est autour. Et c'est cette interface-là que vous voyez. Donc tout ce qui est en vert, qui est le plus brillant, c'est la matière qui est éjectée. Alors que ce qui est autour là, c'est le milieu interstellaire. Et la différence, c'est que la densité ici est beaucoup plus forte, parce que c'était de la matière de l'étoile. Donc densités dans l'étoile sont excessivement plus fortes que celles du milieu interstellaire. Donc la densité est plus forte, et puis aussi les éléments lourds sont beaucoup plus forts. Alors dans cette gamme d'énergie, on a beaucoup de raies d'éléments lourds comme le carbone, l'oxygène, néon, magnésium, silicium, soufre, tout ça, ça émet. Et donc on voit cette émission extrêmement forte de ce milieu qui est enrichi. Et à l'interface, vous voyez que ce n'est pas du tout une sphère ici, c'est très distordu avec des structures comme ça. Ça, on voit ici le développement d'instabilité hydrodynamique, l'instabilité dans la propagation de la matière, hein, à l'interface qui se développe. Et qui permet, c'est par ce mécanisme qu'on mélange des éléments avec le milieu interstellaire. Donc maintenant, d'autres exemples d'étoiles massives. Cassiopeia, donc une étoile dont on pense que l'explosion date de 1670, qui n'a pas été véritablement identifiée comme telle. Donc là, on voit toute cette émission du gaz chauffé avec des structures encore. Et là, ce qu'on voit, c'est les éjectats. Avec ici beaucoup de fer en bleu, de l'oxygène ici, et autrement beaucoup de silicium. Ici, à droite, c'est le crabe. Donc c'est un reste de supernova, donc une explosion d'étoiles massives sur lequel on voit le pulsar ici. Et puis tout ce qu'on voit autour, en fait, est tout le milieu qui est autour du pulsar, qui a été complètement énergétisé par le pulsar, par la rotation grande vitesse de ce pulsar, qui va faire cette émission, ce qu'on appelle émission synchrotron, donc une émission sans ray, qui est due aux électrons qui spiralent dans les lignes de champ magnétique qui sont très fortes. Et qui fait, donc on voit cette émission dans ce plan, plus une indication de G, perpendiculairement à cette émission. Une autre façon de regarder la fin des étoiles, donc par exemple un reste de supernova 4000 ans après l'explosion. Donc ce qu'on voit, c'est encore l'explosion d'une étoile massive. On le sait parce qu'on voit justement le résidu compact, étoile à neutrons, qui est la preuve que l'étoile était massive. Et là, tout est déformé parce qu'en fait, la matière a eu le temps d'interagir avec le milieu interstellaire qui n'est pas du tout homogène dans cet endroit-là. Donc là, on a un front de densité beaucoup plus fort hein, où la matière éjectée rentre dans un milieu beaucoup plus dense, alors que là, c'est un milieu diffus, vaste, qui amène à cette très belle image déformée. Alors maintenant, je vous ai parlé d'éléments lourds, mais je ne vous ai pas encore montré donc comment on pouvait les voir. Alors là, c'est avec XMM dans le nuage de Magellan, un autre reste de supernova qu'on voit ici, donc résidu de cette explosion. Donc là, on voit uniquement le gaz qui a été chauffé et la matière éjectée. Donc là, c'est une carte dans l'oxygène, différents états d'ionisation de l'oxygène, du néon ici, le fer, hein, fer, magnésium, silicium. Donc on voit que la répartition de fer, par exemple de magnésium et d'oxygène est très différente. On a beaucoup d'oxygène dans cette région-là, par exemple. Et ça montre comment on arrive à mélanger cette matière qui a été synthétisée dans l'étoile, comment elle passe dans le milieu interstellaire, comment elle passe dans l'ensemble de la galaxie et comment elle sert aux autres générations d'étoiles. Maintenant, si on regarde des étoiles de plus faible masse, alors là, je vais vous montrer un spectre. Donc voici un spectre en rayons X dans la gamme 0,2 kiloélectronvolt, 10 kiloélectronvolts. On voit donc des raies du fer, magnésium, silicium, soufre, argon, calcium, fer. Voilà. Donc toutes ces raies permettent de caractériser très précisément l'état d'ionisation du gaz. Donc c'est des plasmas qui sont très ionisés à cause de ces températures. On a besoin de savoir précisément quel est leur état d'ionisation pour identifier... C'est nécessaire pour arriver à savoir la composition, puisque c'est l'émission de raies liée à la fois à l'abondance de l'élément, c'est-à-dire à quelle quantité de silicium il y a et son état d'ionisation. Et puis, c'est nécessaire pour comprendre mieux la physique de l'objet. Donc maintenant, ce qu'on va regarder, c'est maintenant qu'on a le spectre global de l'objet, on va regarder dans des bandes d'énergie. Donc j'ai fait les images, par exemple, dans le silicium, dans cette raie-là, pour regarder quelle est la répartition du silicium. Dans le fer... fer, silicium, et puis dans le continu, parce que vous voyez que sous cette émission de raies, on a un continu qui contient beaucoup d'informations. Donc ce reste a explosé en 1572 et avait été observé par l'astronome danois Tycho Brahe. Il a gardé le nom, il s'appelle Tycho. Donc là, c'est l'émission dans une raie du fer. Donc on voit une émission complètement asymétrique avec le nord qui est très brillant, comme dans le silicium et le fer, alors que l'émission du continu, elle, est très différente. En fait, c'est parce que ce qu'on voit, l'émission du continu correspond au milieu interstellaire chauffé, alors que l'émission des raies correspond aux éjecta. On ne regarde pas exactement le même matériel. Donc là, vous voyez extrêmement bien des différences de répartition, par exemple, dans cette région-là, entre fer qui est au centre, là, et là qui est absent, et silicium. Donc ça apporte des contraintes sur les modèles d'explosion et de production des éléments lourds dans l'étoile. Donc maintenant, on va passer à une échelle un petit peu plus grande, que sont les galaxies. Donc, vous voyez la galaxie d'Andromède, M31, en optique. Alors ça, c'est une grande taille, 180 arcminutes. Maintenant, on regarde juste cette partie centrale qui est le cœur de la galaxie, en rayons X avec XMM. Donc on voit une émission diffuse, ces petits points orange partout, et puis des émissions ponctuelles de sources qui sont des étoiles, qui sont des restes de supernova, qui sont des systèmes binaires, des trous noirs, des étoiles à neutrons, qu'on voit tout ce qui est très énergétique, tous ces processus extrêmement énergétiques émettent en rayons X. Pour différentes raisons, mais le tronc commun, c'est d'énormes énergies sont déployées. Et maintenant, si on regarde ce petit centre, cette petite région avec Chandra, qui a une résolution spatiale bien meilleure, ici, là, on voit cette partie centrale qui est en fait le trou noir, un trou noir de 30 millions de masses solaires au centre de cette galaxie. On voit ici qui est résolu ici. Ce qu'on voit, ce n'est pas le trou noir, c'est la matière qui tombe sur le trou noir et qui est chauffée et qui émet en rayons X. Alors ça, c'était une galaxie spirale, qui est une galaxie assez proche de nous, qui est assez semblable à notre galaxie la Voie lactée, et qui fait partie du même groupe de galaxies que la nôtre, avec les nuages de Magellan, M31, et d'autres. Maintenant, si on regarde une galaxie elliptique, donc ça, c'est avec XMM, on regarde donc cette galaxie, le cœur de cette galaxie elliptique, donc on voit quelque chose d'assez... d'assez diffus, hein, pas vraiment de structure de source ponctuelle, et on voit une déformation, là, une petite déformation. Et en fait, en regardant plus précisément, donc toujours avec XMM, cette région-là, ces contours en blanc sont l'émission de cette structure, qui en fait sont des jets. Des jets de la partie centrale, encore un. Donc, ça, c'est une partie avec un noyau, ce qu'on appelle un noyau actif de galaxie, où il y a un trou noir très massif qui accrète de la matière et qui a toute une énergétique autour de ce cœur de la galaxie et qui amène à l'éjection de matière sous forme de jet. Donc l'image ici est une image radio, mais les contours, c'est les contours X dans une bande d'énergie précise, qui n'est pas celle-ci, ça c'est dans toute la gamme. On a regardé dans une énergie plus précise, plus étroite, où ces jets sortent beaucoup mieux. Voilà. Donc on arrive à regarder au cœur de ces galaxies. Maintenant, quand plusieurs galaxies se regroupent, on appelle ça des groupes de galaxies. Et les groupes de galaxies, c'est assez important parce qu'en fait, ce qu'on essaie de comprendre dans l'univers, c'est comment on arrive à cette répartition de matière, comment on arrive à ces structures que sont les galaxies ou les amas de galaxies, les groupes de galaxies. Et pour ça, c'est important de regarder toute cette phase d'évolution, du passage d'une galaxie à un petit groupe. Donc là, c'est un petit groupe qui s'appelle Hixon 16, qui a en fait 7 galaxies. Là, on en voit très bien 4 galaxies qui sont très brillantes. Alors ça, ça veut dire que ça va avoir une structure très irrégulière, parce qu'on ne fait pas un groupe avec 4, c'est un petit groupe, ce n'est pas vraiment quelque chose de très régulier. Ce qu'on voit ici, c'est des images qui donnent des informations sur la température. Donc là, on voit que c'est très, très chaud. En fait, ça, c'est une partie, ça, c'est encore une galaxie qui est très active, dont le cœur est très actif avec un trou noir et qui a une région tout autour de nuages moléculaires très fortes qui absorbent l'émission à basse énergie. Donc on voit que la partie haute, bleue, haute énergie du spectre. Donc ça, c'est l'image rayons X, XMM. Et là, vous avez l'image en optique, on voit ces galaxies en optique. Donc là, ce groupe, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de comprendre, pour que ça fasse un groupe, ça veut dire qu'ils sont liés gravitationnellement. Et pour voir s'ils sont liés gravitationnellement, on a besoin de voir s'il y a un gaz autour qui est pris dans ce potentiel gravitationnel et qui émet en rayons X. Donc là, c'est ce qui est recherché dans ces groupes de galaxies. Donc dans ce groupe, on retrouve les galaxies que je vous ai montrées ici, hein, pas sous le même angle. Et là, tout autour, cette émission faible, certes, mais présente, est une émission diffuse, une émission du gaz qui a été chauffé parce que ce gaz est pris dans le potentiel gravitationnel de ces 4 galaxies, enfin même 7 galaxies, et est élevé à une certaine température de quelques millions de degrés. Ici, HCG 62, c'est encore un autre groupe de Hixon, de galaxies. Là, on voit bien l'émission diffuse qui a été observée par Chandra. Donc on voit une émission diffuse assez étendue, irrégulière, qui provient de la nature irrégulière de ce potentiel gravitationnel qui est un peu disparate. Maintenant, si on regarde des groupes, des associations, pas de quelques galaxies, mais de centaines ou de milliers de galaxies, on passe aux amas de galaxies. Donc là, c'est une observation avec le télescope de Hubble, de Abel 2218, qui a une distance de 4000 millions d'années-lumière. Donc ce qu'on voit, c'est toutes ces galaxies. Donc c'est un amas qui est très riche, ça veut dire qu'il a énormément de galaxies. Donc on voit ces galaxies, on voit beaucoup de déformations, là, de petits arcs. En fait, c'est des effets de lentilles gravitationnelles, parce que cet amas est très lourd et arrive à défléchir la lumière qui vient d'objets qui sont de l'autre côté. Et on retrouve donc cette lumière défléchie par cette masse très importante qu'il y a entre nous. Et donc maintenant, ça c'est l'émission en optique. Que verra-t-on en X ? Eh bien en X, pas pour le même amas malheureusement, mais pour un autre amas de galaxies, on voit quelque chose de très diffus. En fait, on voit une énorme gaz, une énorme masse, de gros nuages de gaz très très chaud, parce que là c'est des dizaines, centaines de millions de degrés, qui émettent en rayons X. Alors là, on a marqué les galaxies qui font partie de cet amas, donc là il y a une galaxie. Donc vous voyez que l'émission individuelle de la galaxie, là, est complètement négligeable. Quand on regardait une galaxie isolée en rayons X, on arrivait à voir son émission, comme je vous l'ai montré, avec cette composante d'émission diffuse, ses sources compactes, les étoiles, le trou noir central, la plupart des cas. Là, cette émission des galaxies est complètement négligeable. Ce qu'on voit, c'est le gaz, un gaz qui est le gaz entre les galaxies, qui est un gaz très très chaud, qui est important en masse, parce qu'en fait, dans ces amas de galaxies, il y a 10% de la masse qui est dans les galaxies, il y a 10% de la masse qui est dans ce gaz, il y a 80% de la masse qui est invisible, dont on ne connaît pas la nature. Donc c'est ce qu'on appelle la masse manquante, on ne la voit pas, on sait qu'elle existe et qu'elle est dans ces amas parce que la température à laquelle ces amas émettent révèle un potentiel gravitationnel ainsi que les mouvements des galaxies au sein de ces amarres révèle un potentiel gravitationnel qui est beaucoup plus élevé donc, que ce qui est observé d'après la détermination de masse des galaxies et du gaz. Donc, ces structures sont très importantes parce que, en fait, ce sont les structures les plus grandes gravitationnellement liées de l'univers. On ne connaît pas de structure beaucoup plus grande que ces amas. Et ils renseignent sur toute l'évolution de l'univers, comment la matière s'est rassemblée, comment elle s'est accrétée de petits bouts de galaxies à des groupes de galaxies, à des amas. Et la forme de ce gaz trace ce potentiel, donc trace l'histoire de cet amas. Un gaz, une émission X qui est très déformée, va montrer qu'il y a eu une interaction très récente, c'est-à-dire une fusion de deux amas qui a amené à la déformation de cette émission. Donc, c'est des éléments extrêmement importants à la compréhension de l'évolution de l'univers. Donc ça, c'est un autre amas, Hydra A, où on voit à gauche l'émission X, à droite l'émission optique. Donc là, c'est moins spectaculaire parce qu'en optique, on voit un peu moins de galaxies. Donc à 840 millions d'années-lumière. Donc encore, on voit toute cette masse de gaz qui est importante. Et puis au centre, on voit une émission très brillante qui est liée à un courant, à une partie beaucoup plus froide au cœur de l'amas où il y a plus de matière. Et puis, je vous parlais d'amas en interaction. Effectivement, la forme de ces amas nous indique, nous raconte un peu leur histoire. Là, c'est un amas Abel 3921, donc on voit l'émission X à 1800 millions d'années-lumière, qui est complètement déformé. On a une partie qui est ce qu'on appelle relaxée, qui est assez sphérique, assez homogène, et puis une extension qui est ici, qui n'est pas du tout symétrique, qui est sur un axe comme ça. En fait, si on regarde la densité, si on retire le modèle, un modèle normal d'amas bien sphérique, etc., ce qui reste, c'est cette partie-là, et puis toute cette partie-là. En fait, ça, ce que ça indique, c'est toute cette partie-là, c'est un amas, la trace d'une autre partie, d'un sous-groupe qui est tombé sur cet amas, et qui a construit des amas de plus en plus gros et de plus en plus lourds. Et ce qu'on voit, la signature de ça, donc on a l'image, mais en fait, on se sert énormément du spectre. Là, je n'ai pas tellement parlé des spectres parce que ce n'est pas très facile, mais on se sert énormément de cette information pour caractériser les températures, pour arriver à comprendre les conditions d'émission. Et là, en regardant la carte de température, ici, vous voyez en fait quelque chose de beaucoup plus rouge, qui est beaucoup plus chaud, alors que ce qui est vert, bleu, est plus froid, et qui se trouve vraiment entre les deux. Et ça, c'est exactement ce que les modèles d'interaction d'amas prédisent. On prédit un échauffement entre les deux qui est lié encore à des ondes de choc qui chauffent le gaz et qui lèvent à des températures beaucoup plus élevées. Donc c'est ce qu'on voit ici et ça trace toute l'histoire de ces amas et c'est comme ça qu'on regarde comment se forment des petites structures, des galaxies, aux groupes de galaxies, à ces grosses structures que sont les amas. Et voilà, j'ai terminé. Donc maintenant, je vous montre rien qu'un ensemble d'objets en X. Alors, ça peut aller des comètes à une étoile, Eta Carinae, qui est une étoile très massive, qu'on voit qui émet ici avec le milieu qu'elle a ionisé autour, un amas d'étoiles, un pulsar, le cœur d'une galaxie, des restes de supernova, un autre pulsar. Tous les objets presque émettent en rayons X. Donc, je vous ai présenté une partie, mais il y a encore énormément de travail à faire pour revoir tout cet univers. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Anne. Bon, je présume que vous avez, après ce voyage fantastique là, dans l'univers X, des tas de questions à poser. Alors, vous vous souvenez des règles du jeu, on enregistre cette conférence depuis un certain temps, depuis le début de l'année. Donc, posez vos questions, je vous attends un tout petit peu, et je vous apporte le micro. Voilà.
Dans le gaz autour d'une étoile qui a explosé,
oui.
La distribution des métaux n'est pas symétrique.
Non.
Quelle est l'explication?
Alors ça, on pense, et c'est vraiment important parce que c'est la première fois qu'on peut vraiment voir ça, parce qu'avec les nouveaux instruments, on a maintenant la résolution de le voir. En fait, on pense que c'est dû une explosion, c'est l'explosion elle-même qui est asymétrique, ce n'est pas le milieu ambiant. Jusqu'à présent, toutes ces déformations-là, ces asymétries, étaient interprétées comme des asymétries du milieu ambiant. Et en fait, ce n'est pas ça du tout, parce que là, ce qu'on voit bien, c'est que c'est dans les éléments lourds, c'est dans ce qui est produit. Et c'est donc une asymétrie lors de l'éjection, lors de l'explosion. C'est que l'explosion est asymétrique, ou que les mélanges entre les couches est asymétrique, qu'on voit plus de silicium dans la partie nord, parce qu'en fait, il y a plus d'oxygène, par exemple, ou d'hélium dans la partie... Donc c'est vraiment ça, c'est des contraintes fortes sur les modèles d'explosion. Ça renseigne sur l'explosion en elle-même. Et c'est important parce que tous les travaux de développement sont pour beaucoup basés sur des modèles asymétrie sphérique. On a besoin de voir ces asymétries pour savoir qu'il faut chercher aussi de ce côté-là et passer du temps.
Oui, ce serait deux points. Je voulais préciser pour les cosmonautes qu'on voyait près du satellite XMM. Mm. En fait, ce sont des ergoliers. C'est-à-dire qu'ils sont chargés
de remplir le satellite de
carburant, oui. Et c'est eux qui se protègent. Ils se protègent contre les émanations qui sont très toxiques.
Oui, d'accord. Mais c'est la même chose entre un truc de salle blanche, on a les mêmes couvertures, exactement les mêmes principes.
Et puis, j'avais une question, c'était sur le temps de pause nécessaire pour un objet.
Alors, ça dépend de l'objet, ça dépend de... si c'est un objet brillant qui est brillant, le temps de pause commence à... 10 kilosecondes, donc c'est 10 000 secondes, 3 heures. Par exemple, on a le XMM à regarder ou Chandra des régions du ciel où il n'y a pas d'objets particulièrement brillants, des régions où on pense qu'il n'y a presque rien, pour voir justement quel est ce fond extragalactique, qu'est-ce qu'il y a plus loin, quels sont les objets. Et dans ce cas-là, il faut poser 100 000 secondes. Hein. Donc ça peut être vraiment des journées de pause hein, pour regarder les objets. Plus on regarde loin, moins on a de signal, plus il faut poser longtemps. Mais l'échelle, c'est entre 10 000 secondes et puis 100 000, 150 000 secondes.
Anne, il y a une question ici.
Oui. Quelle est la nature des miroirs ? J'ai bien compris le système, mais quelle est la nature ? Quel corps est-ce réalisé ?
Pardon, je n'ai pas compris votre question.
En quel corps sont réalisés les miroirs ?
Ah, les miroirs, ils sont en nickel. Les miroirs sont en nickel pour la structure, pour arriver à tenir pour une région structurelle. Et il y a un dépôt d'or hein, qui est fait pour que ça réfléchisse. Mais en fait, c'était des difficultés sur les miroirs et d'arriver à trouver faire quelque chose qui ne soit pas trop lourd pour que ce soit envoyable sur un satellite. Donc là, XMM, c'était déjà 4 tonnes. Donc c'était un lancement Ariane 5. Hein, il fallait qu'Ariane 5 marche, c'était le troisième lancement de l'Ariane 5 quand même. Donc c'est la contrainte de matériaux vient du poids et puis de la rigidité du système et puis après le dépôt.
Est-ce que vous pouvez en deux mots nous expliquer, enfin tu peux nous expliquer comment on fait l'imagerie avec ces miroirs qui ont une forme un peu particulière, très différente de l'optique.
Oui.
Et ensuite, comment on fait la spectroscopie ? C'est-à-dire un spectrographe, on sait ce que c'est qu'un spectrographe en optique, mais en X, c'est très différent.
En fait, là, c'est ce qu'on appelle des CCD. Donc, au plan focal, on a des CCD avec d'un certain nombre de pixels. Alors, par exemple, pour les caméras sur XMM, il y a 7 CCD, d'ailleurs. Il y a un premier central, et puis c'est une mosaïque de CCD. Hein. Voilà, on a quelque chose comme ça, avec donc 7 CCD indépendants, sur lequel donc, un photon arrive, un photon X arrive sur du silicium, ça fait des paires électrons-trous. Hein. En fait, le photon X qui arrive est très énergétique, dégage des électrons, libère des électrons. Ces électrons, il y a des différences de potentiel de chaque côté, donc c'est lu. Ces différences de potentiel ramènent les électrons au bord, là où c'est lu. On compte les électrons, donc à chaque arrivée, chaque photon, on lit très rapidement, on compte le nombre d'électrons, et ce nombre d'électrons est proportionnel à l'énergie. Mais pour ça, il faut que, par exemple, au moment, si un photon arrive en plein milieu du CCD, il faut que lors du transfert des électrons sur le bord, où s'opère la lecture, il n'y ait pas de perte d'électrons dans des trous, de façon à ne pas avoir la meilleure résolution spectrale, ça veut dire à avoir le meilleur le nombre d'électrons le plus près de ce qui a été fait.
Donc la position de l'impact permet de reconstruire l'image, ouais. Et le nombre d'électrons permet de connaître l'énergie, donc d'avoir le spectre.
Et puis c'est lu extrêmement rapidement. Donc contrairement à l'optique, les CCD optiques, on accumule un certain temps, et là c'est lu extrêmement rapidement. Pour chaque photon, on lit pour avoir l'énergie.
Oui, pour éviter la superposition des
autrement,
événements.
Autrement, on confond, on prend qu'un photon qui a deux fois plus d'énergie, donc... Le principe, c'est de lire très vite, sans bruit, et puis voilà. Donc, donc ça, c'est pour la spectro-imagerie. Donc là, on a à la fois l'information d'image et de spectre. Autrement, sur XMM, il y a aussi des réseaux, réflexion. Donc en fait, on a il y a trois télescopes. Il y a un télescope où il y a un réseau de diffraction qui amène ici sur une série de CCD où le spectre diffracté, enfin réfléchi et est étalé, et là on a un CCD. Donc en fait il y a la moitié du faisceau qui va sur le CCD, la moitié du faisceau qui va sur des réseaux. Mais sur le réseau on perd toute information d'imagerie spatiale.
Bon, c'était la partie technique, oui. Attendez, petite seconde.
Oui.
Lors des futurs voyages interplanétaires, comment s'en protéger ?
En fait, ce n'est pas tant les photons X, on pourrait s'en protéger rapidement parce que à ces énergies-là, 10 cm d'atmosphère et c'est absorbé. Par contre, c'est à plus haute énergie, les rayons gamma et surtout les rayons cosmiques, c'est-à-dire les particules, les lésions, les protons qui sont accélérés à des énergies considérables et qui, là, sont... Là, sont difficilement arrêtables.
Oui. Pourquoi un deuxième miroir, miroir hyperbolique ?
Derrière, parce que je crois qu'un seul ne permet pas de focaliser suffisamment. Il faudrait faudrait une focale beaucoup plus grande et c'est plus difficile. En fait, les projets pour les prochains satellites dans 10 ans prévoient un satellite où il y a tous les instruments, puis un autre satellite beaucoup plus loin, indépendant, sur lequel, en fait, c'est la contrainte sur la focale.
Dans M31, il y a deux zones de tourbillons. Est-ce que vous pouvez montrer sur le...
Il y vient. Voilà. Ces zones ici ?
Il y a deux centres d'accrétion.
Ici ? Et puis, vous, ici, vous trouvez ?
J'ai lu que dans Andromède,
deux centres d'accrétion.
Oui.
Là, dans cette région-là, c'est le trou noir qui est au centre. Là, il y en a. Okay. Mais c'est difficile, il y a d'autres endroits qui peuvent arrêter, il peut y avoir d'autres trous noirs.
Vous nous avez montré tout à l'heure une image de M87.
Oui.
J'aurais voulu avoir l'échelle par rapport à M87 obtenue, l'image obtenue par le Hubble Space Telescope.
Alors, l'image.
Alors je complète ma question parce que l'image que nous montre un jet parfaitement tordu et celle du HST est parfaitement droit.
Oui, ça c'est... Là en fait on a le jet en radio qu'on voit ici, puis là le jet en X. Je ne sais pas l'échelle du HST. Là, cette échelle-là, alors attendez que je réfléchisse.
Ah, c'est la totalité de la galaxie.
Ça c'est 30, ça c'est... 30 arc-minutes, donc là on regarde telle région. Quelques 10 arc-minutes, un peu moins, peut-être 8 arc-minutes.
D'accord.
Et vous, votre structure de G est la plus petite échelle.
C'est pas la mienne, hein, c'est celle de 87, c'est l'image du HST. Hein.
Oui, oui, oui. Mais à la plus petite échelle, je pense.
Bah, oui, je pense, c'est plus resserré.
En fait, donc, plus petite échelle, le G est plus focalisé, et c'est la grande échelle qui se défocalise. Puis on ne voit pas exactement la même chose en optique qu'en radio.
D'accord, donc là, on a plutôt l'effet dispersif du G, beaucoup plus loin. D'accord.
Là, on voit les lobes, hein, la partie vraiment lobe.
Merci.
Est-ce qu'on peut mesurer l'effet Doppler en rayon X ?
Oui, on peut. On peut, on arrive à le voir maintenant dans certains objets, mais c'est le début quand même, parce que c'est lié à la résolution spectrale. Donc il faut une bonne résolution spectrale et puis des raies qui n'ont pas des structures, des raies quand même relativement bien isolées. Donc par exemple, dans un reste de supernova de Tycho, en regardant dans la partie centrale, on arrive à avoir un élargissement de raies qui correspond à la partie de la matière qui vient vers nous et la partie qui part en arrière, en éjection. Et donc on a bien l'effet Doppler, on voit la vitesse du choc entre les deux.
Ça, c'est des questions très pointues. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui.
Merci. Et pour régler les fameuses trucs, est-ce qu'il n'y a pas moyen de se servir de l'interférométrie ?
Bah là, ça serait une étape. Là, c'est pas les prochains projets pour 20 ans, pour 2020, ils n'envisagent pas du tout l'interférométrie X. On n'en est pas encore à cette étape-là.
Voilà. Bon, bah, je vous remercie. Merci encore et merci pour vos questions. Donc rendez-vous dans un mois.